Donc bonjour à tous, aujourd'hui on a la chance d'avoir Eric Dimeco avec nous. Donc bonjour Eric.
Bonjour.
Vous pouvez commencer par vous présenter en quelques mots pour les rares personnes qui ne vous connaissent pas.
Alors je m'appelle Eric Dimeco, j'ai 60 ans, je suis ancien joueur de football professionnel, la plupart de ma carrière à l'OM et 4 ans à l'AS Monaco à la fin, international à 23 reprises, voilà.
D'accord. Donc aujourd'hui on va parler Jeux Olympiques et Jeunesse. Donc la première question que j'ai à vous poser c'est que représentent pour vous les Jeux Olympiques et Paralympiques ?
C'est même si le foot a jamais été un sport olympique, c'est un rêve de gosse en réalité, puisque bon, moi j'ai toujours été fan de sport en général, et donc chaque fois qu'il y a les Jeux Olympiques, j'essaie de regarder un maximum de sports. Je regarde même des sports que je regarde pas d'habitude finalement, et du coup pour moi c'est, enfin pas que pour moi d'ailleurs, c'est reconnu comme ça, c'est le plus grand événement sportif du monde. C'est devant les Jeux Olympiques généralement qu'il y a le plus de monde, et donc de les vivre en France, puisque la dernière fois c'était il y a 100 ans, j'avoue qu'on se sent un peu privilégié.
C'est ça. Donc ensuite, vous avez un peu parlé de ça dans la réponse d'avant, et ma question c'était, mis à part le football, qui est votre domaine de prédilection, dans quelle discipline auriez-vous l'envie de concourir peut-être à une finale olympique ? Est-ce que vous avez envie de ça ?
Waouh ! Ah ouais, c'est une bonne question, celle-là, on ne l'avait jamais posée. Alors après, en réalité, on a tous commencé à l'école par l'athlétisme finalement, hein, puisque c'était le sport qu'on pratiquait. Et donc, moi, je suis venu au sport grâce à ça. Et je me souviens dans les, ça s'appelait l'ASU à l'époque, le mercredi après-midi. Donc, j'avais trois disciplines. J'avais le 56 mètres haies, le javelot et le saut en hauteur. Voilà. Et j'avais une super performance en benjamin, en javelot, puisque je crois que j'avais battu le record de... Alors moi, je suis originaire du Vaucluse, donc j'avais battu le record du Vaucluse, benjamin, de javelot, mercredi après-midi. Allez, donc on va partir sur ce sport-là, qui est un sport des pays du Nord, normalement, voire de l'Est.
D'accord, donc dans un autre monde, on aurait peut-être pu voir Eric Dimeco en finale de javelot, c'est ça ?
Voilà, ou le javelot. Ouais, le javelot, c'était... Ouais, c'est bien. C'était mon sport de prédilection quand j'étais gamin, en tout cas.
D'accord. En vous remémorant un peu les dernières éditions des Olympiques, est-ce que vous avez un moment phare qui vous a marqué ? Et si oui, est-ce que vous pouvez nous le raconter ?
Waouh, bah j'ai été bercé au moment fort des Jeux Olympiques finalement. Moi j'ai toujours en mémoire l'exploit à Montréal de Nadia Comăneci, qui était une gamine extraordinaire, une petite roumaine qui avait eu des 10 dans toutes les disciplines pratiquement à la gymnastique. Après Carl Lewis avec Powell sur le saut en longueur où il y a un record du monde. Après j'ai souvenir de des performances des Français au saut à la perche par exemple, parce que c'était un sport très français. Stéphane Diagana aussi qui a flambé aux 400 mètres haies. Un des derniers exploits qui m'a fasciné et un des athlètes les plus fascinants du moment et qu'on va surveiller particulièrement à Paris, c'est Mondo Duplantis qui a battu le record du monde de saut à la perche et qui a un gabarit classique. Il se trouve que je l'ai croisé récemment à l'aéroport. Et le temps que je me rende compte que c'est lui, tellement que son physique est anodin entre guillemets, que je l'ai raté du coup parce que j'aurais aimé faire une photo avec lui. Et ce gamin arrive à sauter à des hauteurs incroyables et à prendre des perches qui sont imprenables pour d'autres athlètes qui sont beaucoup plus costauds que lui. Voilà, il est fascinant ce gamin.
D'accord. Donc comme vous l'avez dit auparavant, on sait tous que les JO sont un événement sportif évidemment exceptionnel, mais selon la discipline, c'est vrai que la symbolique, elle varie. Notamment dans le football, on sait que les footballeurs, c'est peut-être pas leur rêve de gagner le JO comparé à des sportifs qui font de la natation ou de l'athlétisme. Est-ce que vous pensez que le fait que les JO cette année soient organisés à Paris, cela va pousser des sportifs français comme des footballeurs par exemple à y participer et à y attacher plus d'importance que d'habitude.
Alors après, c'est un peu récurrent dans les jeunes générations. On se rend compte que des joueurs de foot, le petit Mbappé notamment, puisque ça fait longtemps qu'il a expliqué qu'il aimerait participer aux Jeux Olympiques, Dupont rugby aussi, qui est un jeune joueur, qui est le meilleur joueur du monde au rugby et qui va participer aux Jeux Olympiques au rugby à 7. On a Wembanyama qui est aussi 19 ans, enfin 20 ans tout juste, qui est parti à NBA, donc le plus grand championnat au monde, et qui sera là aussi. On a la chance d'avoir dans presque tous les sports collectifs, au hand, on sort de la décennie, voire plus, Karabatic, qui était le meilleur joueur du monde, et qui était français, donc on a de la chance d'avoir, notamment dans les sports collectifs, des garçons qui sont au très haut niveau, N'Gapet au volley aussi. On a beaucoup de chance et on a encore plus de chance que les stars du foot et du rugby qui d'habitude ne font pas les Jeux Olympiques aient annoncé qu'ils voulaient y participer, voire même Wembanyama qui va permettre à l'équipe de France peut-être de passer un palier. Et on rêve tous d'une finale États-Unis-France en basket du coup. Et c'est vrai que j'ai quand même par rapport à ma génération l'impression que les jeunes ont une culture Jeux Olympiques supérieure, hein, où ils ont envie d'y participer parce que c'est rentré dans les mœurs. Le tennis, il y a même le golf aussi qui était venu aux Jeux Olympiques. Moi, ma génération, déjà les professionnels n'avaient pas le droit d'y participer. C'est qu'après que des professionnels ont pu participer aux Jeux Olympiques. Donc c'est une grande nouveauté, je trouve ça bien moi.
C'est vrai. Je pense que tout athlète et compétiteur en général a envie de gagner pour son pays une médaille d'or aux JO. Donc on espère voir Mbappé peut-être cette année.
Ah ben, si Mbappé fait les Jeux Olympiques avec l'équipe de France de foot, ils seront favoris.
Eh oui. Donc merci pour ces réponses sur les Jeux Olympiques. Maintenant, on va aborder un peu plus votre nouvelle carrière. Est-ce que vous avez retrouvé des sensations lors des concerts que vous faites, les mêmes sensations que vous aviez lorsque vous jouiez sur la pelouse du Stade Vélodrome, par exemple?
Ah, ça se... Je vais pas dire que ça se ressemble, mais en tout cas, le stress d'avant concert ou d'avant match se ressemble à peu près. Là, par exemple, je sais que bon, hier soir, j'ai pensé à ce concert. Ce matin, je me suis réveillé, j'étais tout excité. J'ai peut-être un peu moins bien dormi que d'habitude. Et y a une préparation aussi particulière. Alors après... et ça, la plupart des gens ne comprennent pas. Je suis beaucoup plus stressé quand je rentre sur scène que quand je rentrais sur un terrain. Même s'il y a 200, 300 personnes, ça me stresse plus que de rentrer devant 60, 80, même plus, puisque à Benfica à l'époque, à Lisbonne, le stade contenait 120 000 personnes. Donc on avait fait une demi-finale de Coupe d'Europe et tu rentres devant 120 000 personnes, ben, en réalité, tu n'es pas tendu, au contraire, ça te galvanise. Parce que on a été formé, préparé à ça dès qu'on rentre dans un centre de formation. Moi, la musique, ça fait pas longtemps que je rentre sur des belles scènes et du coup, j'appréhende pas encore comme il faudrait ce genre d'événement.
D'accord. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu plus votre parcours et votre reconversion professionnelle? Est-ce qu'une fois votre carrière de footballeur terminée, vous imaginiez directement vous lancer dans la musique ou en tant que consultant?
Ouais, alors. Après c'est pas non plus une carrière la musique, c'est un passe-temps sérieux on va dire. Voilà, moi j'aime faire les choses sérieusement. Donc on a un groupe qui commence à bien marcher, donc on bosse beaucoup pour justement faire des belles scènes comme ici au Sismic et peut-être de plus grandes. On en a déjà fait des très grandes l'an dernier. On a eu la chance de jouer un festival à Montpellier qui s'appelle Palma Rosa, il y avait 10 000 personnes, donc c'est un stress particulier, mais c'est pas une reconversion, c'est une passion qui est devenue très sérieuse. Ma vraie reconversion, c'est plutôt dans les médias, puisque ça fait 16 ans maintenant que je suis consultant sur RMC et que je m'amuse avec mes copains tous les après-midi à parler de sport, mais pas que. Voilà, et on dit aussi beaucoup de bêtises.
Donc avec votre groupe Osiris, ce soir, vous jouez dans la salle Sismic qui se trouve à Aix-en-Provence. En parlant de cette ville, est-ce que vous pouvez nous dire un peu les mots qui vous viennent en tête et ce que vous inspire cette ville d'Aix-en-Provence?
Waouh, moi j'y ai même habité à Aix-en-Provence. J'ai été prêté à Martigues en 85-86 et j'habitais à Aix, pas loin de la rue d'Italie. Et Et j'allais m'entraîner à Martigues tous les jours. Quand j'étais jeune homme, j'ai écumé toutes les boîtes d'Aix, le Retro 25, l'Oxidium, le Richelme, le Mistral déjà, voilà, les Mandragores aussi, qui étaient du côté de Venel là-bas. Je connais bien Aix et j'ai passé de bons moments. Ouais.
D'accord.
Et j'aime toujours y venir.
Super. Pour terminer cette interview, ma dernière question, ce sera, selon vous, est-ce que vous avez un conseil peut-être à apporter aux jeunes Aixois qui leur permettrait de réussir aujourd'hui dans leur parcours sportif ou professionnel, et quelles sont les valeurs à respecter pour réussir?
Waouh. Moi, j'ai quand même eu beaucoup de chance dans ma vie, puisque j'ai fait mon métier de mes passions. Donc j'ai joué pendant 17 ans, 18 ans au foot, et puis derrière je suis consultant aujourd'hui, et être à la radio tous les après-midi avec des potes, c'est que du plaisir. Et la musique, c'est pareil en réalité. Et donc moi, mon moteur, ça a toujours été d'abord de faire ce que j'avais envie de faire. Donc ça, c'est le premier conseil. Essayez de partir dans une direction qui vous plaît, même si des fois on vous empêche de le faire. Si c'est vraiment votre passion, tentez, parce que sinon vous allez avoir des regrets. Et par contre, quand vous embrassez votre passion, le faire sérieusement et bosser, voilà. Et à mes copains musiciens, j'ai une déformation à ce niveau-là, c'est que au début, on a monté un groupe pour s'amuser, sauf qu'on a vite vu qu'il y avait du potentiel, et donc là, j'ai commencé à leur manger le cerveau en leur disant, bon, mais on répète toutes les semaines, et on bosse quand on répète pas chacun dans notre coin, et après les concerts, on débrief, et même quand on nous dit que c'est bien, on peut encore progresser, voilà. Et moi, ça a été l'histoire de ma vie, et je sais que mes enfants, j'essaie de leur inculquer ces valeurs-là. Alors, c'est pas toujours évident, mais pour pouvoir faire ça, justement, il faut faire un truc qui nous plaît, et donc essayer d'aller dans un métier qu'on aime et qui nous passionne, parce que c'est plus facile de faire des efforts quand on est passionné. Alors après, malheureusement, il y a des fois, on a un boulot qui est pas toujours évident. Ben, le faire le mieux possible et trouver justement une passion à côté qui nous permet de s'éclater, et puis d'avoir envie de relever des challenges.
Bah merci pour ces conseils précieux. Ce sera la fin de cette interview. Merci beaucoup, Eric Dimeco, pour votre disponibilité et vos réponses.
Mais merci à vous.
À bientôt. Au revoir.
Merci.